J'étais en train de regarder le dernier James Bond, enfin je sais pas si c'est le dernier, mais en tout cas celui que moi j'ai vu, c'est-à-dire Mourir peut attendre, No Time to Die, avec Daniel Craig. Et bon, c'est un James Bond comme on connaît, quoi, c'est-à-dire avec beaucoup d'action, une belle photographie, des belles nanas, des gadgets, l'humour british, voilà. Et puis, moi dans les James Bond, en tout cas ceux que j'ai connus, ma culture, bah, j'associe ça donc à ces Sean Connery, Roger Moore, les années 80. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Pierce Brosnan, Timothy Dalton qui a pas beaucoup marqué les esprits, et puis maintenant Daniel Craig. Donc, on a un peu tous les clichés, même s'ils essaient un petit peu de renouveler le genre, on a quand même tous les clichés qui sont là. Et dans ce qu'on attend d'un James Bond, dans ce que moi j'attends d'un James Bond, ce qui m'a un peu formaté depuis que je suis gamin, c'est la musique. Je me dis à chaque fois qu'on a ce long générique de présentation avec des montages pas possibles, et puis on attend toujours une musique incroyable. Et donc là, j'attends, quoi. Je vois en plus, le film est vraiment sympa. Il y a une photographie magnifique. On a des images d'Italie qui sont à couper le souffle, quoi. Et donc, enfin, le générique. Et là, je me dis, bon, je vais me régaler. J'étais là. Et là, j'entends donc une pauvre intro, quatre accords qui se battent en duel. Je me dis, bon, je juge pas trop vite. J'entends ensuite une chanteuse que je connaissais pas, qui était au bord de la crise d'asthme. Bon, je me dis, bon, ne juge pas trop vite, je me dis, écoute. Et puis je me rends compte qu'en fait, bah, c'était tout. Voilà. C'est-à-dire que ce que j'avais entendu, les quatre accords qui se battaient en duel depuis le début, bah, c'était la compo, c'était ça la chanson. Alors il y a après une orchestration un peu poussive qui vient gonfler, parce qu'en quand même, il y a tellement d'argent, on sent bien que faut quand même donner le change un petit peu. Donc ça, je crois que c'est Hans Zimmer, ou c'est peut-être pas lui qui a fait les orchestrations, enfin en tout cas, c'est son nom pour la musique de film. Donc, voilà, j'entends ça et j'étais déçu. Je me dis, mais j'ai trouvé ça mauvais, j'ai trouvé ça, enfin pas mauvais, mais j'ai trouvé ça pauvre, quoi. Pas à la hauteur de ce que j'attendais, c'est très personnel, hein. Et je me suis dit, mais bon sang, j'ai dû rêver, ou qu'est-ce qui s'est passé, quoi. Alors ce que j'ai fait, je suis retourné et je me suis fait une petite playlist et puis j'ai passé en revue les James Bond que je connaissais, c'est-à-dire ceux depuis bah, le tout premier, quoi, un peu le. Là, avec les petits gimmicks musicaux qu'on connaît tous et qui sont un peu la signature, quoi, le point de départ des musiques de films de James Bond. Et puis après, j'ai écouté ceux qui m'avaient marqué, notamment avec bon, bah, les Wings, Live and Let Die. J'ai réécouté la musique de Sheryl Crow, c'est Tomorrow Never Dies. Et puis donc je suis remonté deux dizaines d'années, en dizaines d'années, comme ça fait 60, 70, 80, jusqu'aux deux, trois derniers. Et donc j'ai écouté Adele et Billie Eilish. Et là, c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Je me suis dit, mais je suis obligé de constater qu'il y a un effondrement, mais vraiment un effondrement du niveau musical. C'est comme ça. Désolé. C'est un effondrement de la. C'est pas forcément, on va pas dire, c'est pas un problème de qualité. C'est un problème de richesse. C'est un problème de proposition, de couleur. On pourrait dire de la complexité, mais la complexité, c'est un mot piège parce qu'on va dire oui, on n'a pas besoin de faire complexe, on n'a pas besoin de faire compliqué pour faire des belles choses, bien sûr. Mais quand on réécoute les musiques de John Barry, quand on réécoute les propositions qui étaient faites dans les James Bond des années 70-80, dans les musiques de films, mais c'est tellement monstrueux, il se passe tellement de choses, c'est tellement harmoniquement, il y a tellement de variété, que j'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, on arrive à un tel niveau, que ça se soit effondré à ce point-là. Alors, si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est que. Parce qu'évidemment, je sais que là, je parle un peu comme un vieux con, mais c'est pas grave, j'assume. Mais attention, j'ai des arguments. Là, je vais pas faire un jugement de goût, dire j'aime pas. Bon, je suis pas fan des chanteuses asthmatiques et des pianos sous l'eau, mais ça, c'est pas le propos. Moi, je regarde ça du point de vue uniquement technique de l'harmonie. Je regarde un petit peu où sont les modulations, les accès, la composition, et les arrangements. Mais il faut pas non plus que l'arrangement soit un cache-misère. Donc, je prends tout ça en considération. Je me suis dit, mais objectivement, d'où on vient quand on regarde depuis John Barry et où on arrive? Et là, ça fait mal. Ah, ça fait très très mal. Alors, si vous voulez, on commence, on écoute le tout premier. Alors, c'est John Barry. Donc, c'est le thème historique composé. Donc, je pense que c'est, je ne sais pas l'année exacte, mais donc dans les années 60. Et c'est un thème qui est associé à James Bond contre Dr. No. Ah oui, c'est intéressant parce que, je disais tout à l'heure, je parle pas de complexité. Il s'agit pas de mettre 50 000 accords pour que ce soit intéressant. Mais vous voyez ce qui se passe ici. Donc on est en mi et on a simplement ici un mouvement oblique entre la basse et le ténor. Alors c'est le mouvement fondateur. Oui, mais on a un accord. Mais quelle richesse! Et puis ici. Ah! Ah, bah d'accord, parlez-moi d'une tension. Ici, on va carrément sur la septième majeure qui descend septième mineure. Voyez, on fait des emprunts comme ça, on se balade dans différents modes. C'est très intéressant. Ok, on continue, on peut peut-être écouter, mais... Ah, mi mineur. Il se passe assez de choses, quand même. Ah, merci. Alors... Et la signature, mi mineur majeur 7, avec en plus la 9e. D'accord. Donc vous voyez, ça, c'est le point, c'est de là qu'on vient. Juste pour planter un peu le décor. C'est-à-dire que la musique originale, John Barry, on arrive de là, on a un accord, une orchestration, un big band, c'est, bon, c'est monstrueux, tout ça, c'est hyper bien écrit. Mais je parle juste du point de vue de l'harmonie, la simplicité, le concept d'avoir simplement ce mi mineur qui monte sur la 6 mineur, ce mouvement oblique, avec en plus de ça, la guitare, le thème qui se balade comme ça autour de la seconde majeure, la tierce, pour avoir en plus des frictions comme ça, on va chercher la septième majeure qui redescend, et pour finir avec en plus de ça carrément mineur, majeur, 7, 9. Vous voyez, donc ça, pour moi, évidemment que quand on fait du jazz, c'est pas un accord, il nous impressionne pas cet accord. Mais il faut le remettre, encore une fois, c'est un problème de rapport au propos, de rapport au cinéma, à l'objet filmé, à ce qu'on va proposer. Et d'office, on est quand même dans des accords qui sont pas simplement des... On est pas en train de se balader avec une triade comme ça, toute simple. On propose, dès le début, l'accord qui a fait couler tant d'encre, la signature, la genèse, le point de départ, c'est un mi mineur majeur 7-9, quoi. C'est quand même... Bon, on comprend, quoi. Alors, on avance. Donc ça, c'est James Bond. Dans le même ordre d'idées, quoi, on a aussi Goldfinger, toujours composé par John Barry. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a... Alors ça, pour comprendre, pareil, la complexité, la culture harmonique qui sous-tend cette composition, ça paraît pas comme ça. Mais vous voyez, déjà, on a des accords qui sont très éloignés. Ça, si vous voulez comprendre ce type de travail du point de vue de la composition et de ce qui se passe harmoniquement, en fait, c'est basé sur l'échelle double augmentée. Vous avez Do augmenté, mais si vous ajoutez en plus Mi bémol augmenté, okay, vous obtenez ça comme échelle. L'échelle double augmentée 3-1. Voilà. Et ici, donc c'est-à-dire que vous allez obtenir des triades majeures et mineures qui sont équidistantes et qui, en l'occurrence, sont distantes d'une tierce majeure. Donc on va avoir Do, Mi majeur, La bémol majeur. On a aussi Do mineur, Mi mineur, La bémol mineur. Vous mettez ça sur pédale, là, vous avez, pour faire de la musique de film, là, allez-y, là, c'est formidable, ok. Donc c'est le concept, ça, c'est l'outil qui sous-tend la composition. Donc on a... Et ensuite... Rappel, on a une redondance, une répétition de ce thème avec La bémol Mi qui revient en gardant le Do majeur ici. Donc c'est comme si on avait un ionien bémol 6 ici. Ok, on continue. Même chose. Majeur, double augmenté. Ok, ensuite, qu'est-ce qui se passe? Si mineur, Mi. Donc on a un 2-5. On quitte cette, l'échelle double augmentée. Et là, on va faire un 2-5-1 pour aller en La majeur. Pour ensuite retourner au ton antipode. On va au Mi bémol, au triton, la tonalité la plus éloignée. On passe de La à Mi bémol. Vous voyez un peu? C'est audacieux, hein? 6-7 qui nous ramène, voilà, qui revient à Mi-Do. On refait un tour, même chose, là. Mi, sauf que cette fois-ci le Mi bémol nous amène au La bémol mineur. Et de nouveau, évocation, c'est John Barry, donc il signe son thème, c'est un peu normal. Et donc on n'a plus le Mi bémol qui ensuite va aller au 6-7 pour retourner au Mi, mais on a le Mi bémol qui nous emmène au La bémol mineur. Vous voyez un peu? Donc ça, c'était la musique de Goldfinger. Okay, en français, c'est l'homme au pistolet d'or. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, année 70, je crois que c'est 77, ça. When you were young and your heart was an open book, you used to say. Ok, alors qu'est-ce qui se passe ici? Non, sol, sol, si mineur 7, do, ti da 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 da. Ça, c'est pas très élégant, mais bon, c'est comme ça, c'est la signature, un peu, variété, la neuvième mineure. Ok, mais quand même, premier degré, troisième degré, 3 mineur 7, le vrai intégré, do majeur. Ok, 5, 7 bémol 9, qui redescend à 1. On continue. Là. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh! Alors on était sur Ré, la dominante, cinquième degré, on s'apprête à retourner au sol. Et maintenant, regardez bien les conduites. On va au bémol 3, vous voyez? Et ça, qu'est-ce que ça annonce? C'est très intelligent, c'est vraiment bien écrit. Ça annonce le premier degré où on va passer de sol majeur à sol mineur. Vous voyez le degré d'écriture, degré de composition, okay. L'arrangement qui suit, c'est George Martin, avant que j'oublie. C'est le même arrangeur des Beatles qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien aux Beatles, notamment du point de vue orchestral. Donc on est sur le Ré 7, on s'apprête à aller vers le thème orchestré qui, lui, est en sol mineur. Et là, comme une annonce, on va avoir... Et là, on revient en sol majeur. Pédale tonique. Do. La. Sept. Toujours petite pédale de sol. Ou basse de sol. Sol mineur. Qu'est-ce qui se passe ici? Donc on est ici, tout ça, on se balade dans sol mineur dorien. Et là, on a une triade do, basse de sol qui appartient à sol dorien. Et ensuite, on a ré bémol majeur, basse de sol. De nouveau ici, si bémol, ça encore, ça appartient à sol dorien. Oh, pour aller à do bémol ou si majeur. C'est monstrueux. Audacieux quand même, c'est le minimum quoi. Encore des triades. Ok. Si bémol, ré, mi, do, ré, ti, ti. Bah tout ça sur pédale, voilà. Vous voyez un peu la tension qu'il y a. Et on revient en sol mineur. Voilà, et on termine. Là, on retourne vers du sol dorien. Bon, je passe la suite. Après, il y a toute la partie un peu reggae, variété qui est monstrueuse. Mais bon, voilà. Voilà ce qu'on entendait. Voilà, moi, j'ai grandi avec ça. Parce qu'à l'époque, on avait la cassette, j'ai écouté ça en boucle. Voilà le type d'harmonie que j'ai entendu. Quand même, bon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, on passe à, encore les années 70, alors je crois que ça, je sais pas lequel est le plus ancien, je crois que celui-là vient après, oui, parce que Nobody Does It Better, c'est Roger Moore. Quoique celui d'avant, Live and Let Die, je crois que c'était Roger Moore aussi, je me rappelle plus. Alors, c'est quoi celui-là? Ah! Non, mais déjà l'intro, c'est monstrueux, on dirait du Bach. Fa, et ici en dixième. Mais le niveau d'introduction, quand même, c'est pas mal. Ensuite, très bluesy, très churchy, gospel un peu. Yeah, plagal mineur. Avec du Rhodes derrière, c'est beau.
La 7, ok, soit augmenté ou bémol 13, peu importe, on vient d'un genre de phrygien majeur. Ouais, donc on avait fa majeur, si bémol, 4e degré, 4 mineur plagal, et maintenant... Là, c'est écrit comme un standard de jazz, quoi, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Sol mineur. Do sus 4. Re. Monstrueux. C'est monstrueux. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah, là, on passe aux années 80. Ouh! Bon, là, l'orchestration, c'est comme ça. L'arrangement, c'est très daté. C'est un peu mal vieilli, mais... Ok, donc ça, c'est... Ça vient de A View to Kill. C'est Duran Duran. Meeting you with a view to a kill. Face to face in secret places. View to kill. Ça, clin d'œil, ça c'est samplé, hein. Je sais pas d'où, mais... Do, sol, si bémol, fa. Okay. Ce qui est intéressant, c'est que ça, on a une grille qui est pour l'instant assez simple. Et on pourrait se dire, on pourrait rester là-dessus. Et vous allez voir que quand on va monter tout à l'heure, qu'on va progresser dans le temps, ça, ça ferait un seul morceau pour les compositions, pour les productions d'aujourd'hui. Alors que là, c'est simplement le début. Donc on est parti de Do, ok. Ensuite on est allé en La bémol. Pour ensuite aller en Mi. Et on revient, on est revenu en domino. Bon, les arrangements, c'est très années 80, ça date un peu, ça a mal vieilli. Mais c'est pas ça, encore une fois, c'est pas de dire, je suis pas fan des arrangements et je pense qu'on a fait peut-être un peu mieux, ou en tout cas, on peut dire que voilà, c'est très daté. Bon, c'est comme ça, il y a des œuvres qui sont très datées dans leur forme. Mais encore une fois, là, je parle simplement du fond. Vous voyez que c'est un morceau chanté par un groupe de variétés. On est dans les années 80 et on se balade quand même déjà sur au moins trois tonalités. C'est ambitieux. Il y a la volonté de chercher des couleurs. On propose des choses. On ne reste pas cantonné uniquement dans une pauvre grille qui se bat en duel avec trois accords. Et ensuite, ah, alors là, ça, c'est mon chouchou. Ça, c'est ma musique préférée. C'est mon... Pas le film. Hein, le film, enfin, quoi que j'ai bien aimé, mais ce n'est pas forcément le meilleur. Mais alors... Cette musique-là, avec cette chanteuse-là, ce thème-là, la composition, les arrangements, pour moi, c'est le top. Je dirais que la plus intéressante du point de vue technique, c'est pas celle qui me touche le plus, mais celle que je trouve la plus intéressante, c'est la musique de John Barry, parce que là, carrément, on se balade sur des échelles. Donc, je veux dire, le niveau de connaissance, c'est discret, on s'en rend pas compte, mais il y a une culture qui sous-tend la composition qui est là, quoi, manifestement. Et donc, c'est audacieux de proposer ça. Mais celle qui me touche le plus, où je suis à chaque fois scotché quand je réécoute, c'est la musique de Tomorrow Never Dies, chantée par Sheryl Crow. Et j'avais noté, alors elle l'a composée, mais je pense qu'elle est aidée dans l'arrangement par un gars qui s'appelle Mitchell Froome. Ok, pardon, dès le début, polyrythmie. Thank you. 3 pour 2. En étant en do, on arrive en sol. Ça, c'est un mouvement classique. On descend sur la septième majeure, sur la septième mineure. Donc, on pourrait analyser comme un ré augmenté basse de fa dièse qui descend sol mineur 7 ou si bémol basse de fa qui descend ici. De la même façon, on va à la sixte majeure comme un soit un mi diminué ou alors un mi mineur 7 bémol 5 basse de ré ou un sol mineur 6 à fondamental sous-entendu renversé sur la sixte. Peu importe ici, ce qui prime, c'est ce mouvement de basse pour aller vers le ici quatrième degré. Donc, on est centre tonal ici. Sol mineur, 4, basse de mi bémol, ça pourrait être aussi le 2, on pourrait penser la mineur 7 bémol 5, basse de mi bémol, ou do mineur, basse de mi bémol, et ensuite, ré sus 4, qui va à ré, et on refait un tour. Le vrai la mineur 7 bémol 5. Donc là, on a eu la même chose, mais cette fois-ci, plutôt que d'atterrir sur un do mineur, basse de mi bémol, on est arrivé sur un vrai la mineur 7 bémol 5. Ensuite. Fa mineur, accès. Fa mineur 7, basse de mi bémol. Si bémol. Si diminué, qui monte à do. Ok, donc do mineur, ad 9, la neuvième au chant. Basse de mi bémol. Fa mineur 6, sol mineur. Do mineur, basse de si bémol. Fa mineur. De nouveau, sol mineur. Cadence un petit peu surannée, un peu à la Ravel, 5 mineur qui va à 1. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, là, on doit retourner à do mineur. Ok, donc là, on était... On devait retourner au do mineur, et qu'est-ce qui s'est passé? On a fait... On est allé au bémol 6 majeur 7. On est toujours en do mineur. On monte à la bémol. Et ici, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. On va avoir l'évocation de la fameuse phrase. Regardez bien l'orchestration. Avec un la bémol majeur qui devient la bémol sus 4. Qui monte à sol sus 4. Alors, qui descend à sol sus 4. Mais ici, on a le do dièse ré bémol qui monte à ré bémol. Et en même temps, ici, le do. Vous voyez? La même chose. Se reproduit dans la répétition le conséquent de l'antécédent ici, et cette fois-ci c'est Fa mineur avec le même contrepoint. Ouais, donc on a d'abord La bémol avec. C'est lydien, on a la neuvième qui devient la dièse 11 pour La bémol, vous voyez un peu la richesse. Et là vous avez le piano qui fait. Et ensuite, Fa mineur avec la onzième au chant, Fa mineur, bémol 6, pour aller au sol qui va retourner à Do mineur. Et je vous ferai remarquer que le contrepoint ici qu'on entend n'est pas simplement un petit ornement orchestral ou un petit arrangement qui est venu a posteriori. Il est pensé dans l'écriture du thème. C'est monstrueux! Mais c'est monstrueux! On le réécoute une fois. Et on revient
toujours à la, au 3 pour 2. Etc, etc. Bon, c'est monstrueux. C'est tout, c'est monstrueux, il n'y a rien à dire. Il y a des trucs comme ça, Chirilco. Et je vous ferai remarquer... Ah, si, quand même, on va écouter un dernier truc important. Écoutez bien la façon dont la voix attaque le refrain. C'est un peu faux, mais on s'en fout. On a envie de ça. C'est justement, c'est humain. On n'a plus ça. Tout est nivelé à l'autotune. C'est insupportable. Qu'est-ce qu'on devine qu'il y a c'est un petit peu bleu, une petite fausseté. C'est pas parfait, mais c'est ce qui rend le truc encore plus humain, encore plus touchant. C'est encore plus beau comme ça. C'est le drame de toutes les productions aujourd'hui, toutes les daubes qu'on a, où tout est nivelé à l'autotune, compressé à la presse hydraulique pour qu'on puisse l'écouter sur les téléphones. Mais c'est insupportable. Voilà une voix qui a été naturelle, qui s'est donnée, qui est humaine, qui n'est pas d'une perfection de robot. On s'en fout. Et c'est beau. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qui nous touche. Ok. Alors, on continue maintenant. Bon, on continue. Alors, on va quitter, on va laisser Sheryl Crow. Monstrueux, Sheryl Crow, cette composition, donc Tomorrow Never Dies, et on va, parce qu'on pourrait en écouter beaucoup, mais on va prendre simplement maintenant les deux derniers, Skyfall et No Time to Die. Alors j'ai cherché celui d'avant, donc pour faire un peu une musique des années qui soit 2000, par exemple, mais j'ai pas trouvé grand-chose d'intéressant, et les deux, je trouve, qui étaient emblématiques de ce que je voulais montrer, bah, c'est Skyfall et puis No Time to Die. Alors on commence par, donc c'est Adele, Skyfall. Bon, ils sont gentils. Ça, c'est quoi, une espèce de ré dégueulasse là? On comprend pas trop ce qu'elle a voulu faire, mais bon. Si, ok. Juste 4-3. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move. Bon, on va pas tout écouter, y'a que ça. Voilà. Hear my heart burn. De nouveau, cette espèce de ré sous-dominante un peu phrygienne. Ah, il est bon quand même, c'est rattrapé par l'orchestration. Ah, si, voilà. Or, ils nous ont mis simplement. Il y a le la qui se balade. Voilà, donc on passe un petit peu. On passerait un petit peu un moment par une espèce de système mineur mélodique pour donner. Je crois que c'est la seule couleur que j'ai entendue de tout le thème. Et puis après, c'est. Voilà. Voilà, après c'est rock, après c'est bon, ok. C'est pas que c'est pas bien, c'est pas que j'aime, c'est pas le propos. Vous voyez que par rapport à tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a écouté, tout ce qu'on a pu analyser, vous voyez que là, on a trois accords, après un petit 2-5, c'est tout. Je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, je dis simplement que je constate tout de suite que la qualité de proposition, le degré d'ambition... Ben, tout de suite, s'effondre. Là, c'est un constat objectif. C'est pas une question de dire j'aime ou j'aime pas Adèle ou les compositions ou le film, c'est j'écoute ça. Voilà. Et enfin, le dernier, celui où je suis resté un petit peu comme ça, c'est No Time to Die. Voilà. Bon, alors là, ils ont foutu le piano dans la piscine. Pourquoi pas? Ça, après, c'est des questions de goût. I'd leave alone. Midola.
Just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair.
Ah, on a un petit, il y a une nappe qui traîne avec un la do dièse et tout de suite le piano qui dit la do. Alors on a une petite, un petit frottement entre le majeur mineur. C'est pas sûr qu'il l'ait fait exprès d'ailleurs. Petit rappel,
orchestration. Idola.
Aussi.
Accès.
Alors vous comprenez, moi j'ai entendu ça, je me suis dit bon alors ça c'est quoi? Ça doit être l'intro, mais après il va y avoir un accès. Ah non, c'est pareil. Je dis bon, peut-être le refrain va être différent. Ah non, c'est pareil. Bon, il va peut-être y avoir une modulation. Non, il n'y en a pas. Je dis bon, il y a peut-être une code. Non, non. Il y a simplement, quand même, c'est nourri orchestralement. Il y a tellement de pognon mis dans ces productions qu'heureusement quand même, ils ont pris un orchestre symphonique. Et donc c'est gonflé, c'est le terme, c'est gonflé avec des orchestrations. Mais le propos, la composition à la base, elle est d'une indigence crasse. Je suis désolé, c'est très pauvre. Alors, c'est maintenant, là je sais que je vais me faire allumer en disant « Ouais, mais on s'en fout, je parle même pas des fans d'Adèle ou de Billie Eilish. C'est pas la peine de venir vomir dans les commentaires, ça sert à rien. » Ce que je veux dire, c'est pas une question de faire une chanson qui soit complexe ou pas. C'est pas du tout là que ça se passe. Au demeurant, quand on a regardé tout à l'heure la composition de le tout premier James Bond, si vous voulez, John Barry, c'est très simple, c'est un accord. Et on a ça dans l'histoire de la musique, on n'a pas besoin de faire compliqué pour faire beau ou pour faire riche. Si vous écoutez Satie, vous écoutez Gymnopédie, il y a deux accords. On a ça, Miles Davis, vous écoutez Toutou, vous écoutez Jean-Pierre, vous écoutez certains grooves de Michael Jackson, il y a un accord. D'accord ? Il y a un accord. Donc il n'y en a même pas quatre, il y en a encore moins. Mais quel accord ? Quel renversement ? Quelle tourne ? Quel groove ? Quelle mélodie ? Quel contrepoint ? Et là, je parle pas de l'orchestration, je parle pas de l'arrangement. Vous avez vu que l'arrangement des années 80, ça peut être très daté, mais il n'empêche que la composition derrière, les modulations sont là. Donc c'est pas une question d'habillage, c'est une question de propos, c'est une question de fond, c'est pas une question de forme, pour le dire autrement. Alors, est-ce que c'est grave? C'est pas grave, mais pourquoi est-ce que moi, ça me pose un problème d'avoir ce type de chansonnette? Voilà, dans une musique de James Bond. C'est après tout, il faut de tout pour faire un monde. Il faut de la bourrée, il faut de la musique modale, il faut du Boulez, il faut du Messiaen, il faut de la variété, il faut du Cool and the Gang, et puis il faut de la musique orchestrale, il faut de tout. Voilà. Bon. Mais le problème, c'est qu'il faut être cohérent. C'est ça, moi, qui me pose un problème. Et dans mon esprit, dans ma culture d'enfant qui a grandi avec les James Bond, les productions de ces films-là, ça correspond à quelque chose de bien particulier, ce sont des films et des projets qui sont ambitieux. Vous voyez ? Aujourd'hui, bon, je sais que je vais encore parler comme un vieux con, mais c'est vrai que maintenant, on en fout partout. Tous les concerts sont devenus des feux d'artifice. C'est le 14 juillet, dès que vous allez voir un artiste au Stade de France. Bon, mais il faut bien voir qu'à l'époque, les films à très très gros budget ne sortaient pas aussi souvent qu'aujourd'hui. Donc quand il y avait un James Bond qui sortait ou un Mission Impossible, plus tard, ça reste encore un peu le cas, mais c'était encore plus vrai dans les années 70-80, c'était des films événements, les budgets étaient colossaux, et l'ambition des producteurs et de tout ce qui faisait le sel un petit peu du film, bah, tout était à l'avenant, y compris la musique, et c'est là où je veux en venir. C'était pas n'importe quelle production musicale, c'était bien sûr qu'il y a toujours eu des invités que globalement c'était quand même de la chanson. Il y avait voilà Carly Simon, on a eu Duran Duran, il y avait les Wings, mais c'est pas simplement le fait d'inviter des artistes de variété à faire une petite chanson comme Adele ou comme Billie Eilish. C'était de prendre ça et puis d'en faire quelque chose d'ambitieux du point de vue de la composition. Il fallait que la musique qui accompagne l'ouverture du film soit à la hauteur du film. Et je suis désolé, ça n'est pas du tout le cas des deux musiques qu'on a écoutées là. C'est bien pour écouter, je sais pas, sur une playlist, en soirée ou en podcast comme ça, si on est dans le train pour aller bosser, j'en sais rien. Mais moi, quand je suis au cinéma, quand j'entends un piano solo avec une chanteuse à qui il faut apporter de la ventoline, c'est pas possible. C'est pas possible, qu'est-ce qu'ils ont foutu là ? C'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur. Et puis en plus de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet effondrement global, il a une incidence sur le niveau général. C'est-à-dire qu'on s'habitue à cette... Je ne vais pas dire médiocrité, parce que ce n'est pas médiocre, ce serait méchant. Mais on s'habitue à ce manque d'ambition. C'est-à-dire que finalement, on se fait des projets un petit peu comme ça. Alors, et si j'osais, si je faisais un peu de politique, je trouve que ce qui se passe musicalement est à l'aune du reste. C'est-à-dire qu'on voit que globalement, il y a une espèce d'affadissement, il y a un affaiblissement dans des tas de domaines sociaux, économiques, politiques. Il y a quelque chose qui est en train de... On sent qu'on est en fin de cycle. Et je trouve que ça se ressent aussi dans la musique. On a des choses qui tournent en rond. Et quand on compare... par rapport aux musiques qu'on a écoutées au début, la richesse, l'ambition, la gageure harmonique, quoi, les mecs, c'est carrément, on y va. On est audacieux, c'est hardi. Alors que là, ce qu'on a entendu, je suis désolé, c'est un truc, c'est la chanson numéro 4 dans l'album, quoi. C'est ça, le niveau. Donc, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, on a la même chose dans les musiques pour les gamins. Les musiques de dessins animés, si vous écoutez ce qu'on faisait écouter, ce que moi j'ai entendu quand j'étais gamin, les musiques de Michel Legrand étaient Une fois la vie, Ulysse 31, enfin, il y avait des vraies orchestrations, il y avait parfois il y avait du rock, il y avait du jazz, il y avait des, harmoniquement c'était ambitieux. Donc quand vous êtes gamin, que tous les soirs vous êtes devant la télé parce que vous attendez votre dessin animé, mais il y a quelque chose qui passe culturellement. Vous allez vous habituer à entendre certains trafics harmoniques, c'est inconscient, mais ça passe quand même. Vous avez forcément, ça cultive l'enfant, donc ça cultive toute une nation. Je vais très loin, mais je le pense sincèrement. Faites écouter de la merde aux gamins pendant des mois et des années, bah forcément, vous leur faites écouter des pintades qui chantent à l'autotune. Au bout d'un moment, le môme, quand il va entendre une chanteuse qui chante normalement, avec une voix, s'il n'y a pas de vibrato, ce sera un peu faux, comme on a vu avec Sheryl Crow. Et le môme, il va dire bah, « c'est quoi ? J'aime pas. J'aime pas, parce qu'il n'a pas été éduqué à ça. Ça tombe pas tout cuit dans le bec, vous comprenez ?» Donc c'est ça le problème, c'est que je trouve qu'il y a un manque d'ambition, je trouve qu'il y a un manque de respect, c'est pas à la hauteur du propos. Voilà, ça n'est que mon avis, mais ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si on n'est pas d'accord du point de vue du goût, ça, après, hein, chacun aime ses artistes et puis on a ses petites préférences, mais en tout cas, là où je voulais démontrer mes arguments, c'est surtout du point de vue technique. Quand on regarde concrètement la richesse de toutes les compositions dans les films précédents et qu'on arrive dans les derniers, on voit bien que là... fatalement, là vraiment, on ne peut pas qu'on me démontre le contraire, mais là, harmoniquement, musicalement, ça va être très compliqué. On voit bien que tout d'un coup, on est allé à la simplicité. Alors, je ne sais pas, restons positifs, c'est peut-être simplement un cycle, peut-être qu'on est à la fin de quelque chose et qu'on va, dans les 5, 10 ans, 15 ans à venir, peut-être qu'on va revenir vers de nouvelles formes d'expression, qu'on va retrouver quelque chose d'un peu ambitieux, parce que d'avoir toute cette culture, tout ce langage, toute cette histoire, quand on écoute Earth, Wind & Fire, quand on écoute Cool & The Gang, toute la variété, les Wings, même les Beatles, quand on entend toute cette richesse harmonique pour arriver à faire des musiques où on a quatre accords qui se battent en duel, bon, bah, je trouve ça un petit peu triste, mais bon, peut-être que ça reviendra. Et voilà, et encore une fois, c'est pas un jugement, c'est pas que j'aime pas Billie Eilish ou que j'aime pas Adele, c'est pas du tout ça, parce qu'il faut de la variété, il faut de tout pour faire un monde, mais je trouve simplement que c'était pas, pour le dire plus gentiment, c'était pas franchement le meilleur choix pour une musique de James Bond. C'était pas à la hauteur, je pense, du propos cinématographique. Voilà. Et puis, de toute façon, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi, c'est pas très grave, mais n'oubliez pas que, comme disait Nietzsche, des goûts et des couleurs, on ne discute pas, et pourtant, on fait que ça.